Histoire locale, Noël et Estelle Aran, résistants de la première heure à l'ortudie. 8 mars 1943, 3 heures du matin, par une nuit sans lune. Alors que l'ortudie est soumise depuis de longs mois au couvre-feu de l'occupation allemande, un groupe de 4 cyclistes silencieux parvient à l'entrée de Quin-Hervent et met pied à terre pour tendre l'oreille du côté de la route de Plonivelle. Le bruit des pas bottés d'un factionnaire de garde à l'entrée du camp de Kemmer s'est éloigné dans la nuit. Le jeune éclaireur qui mène le groupe fait le signe convenu et prudemment, chacun remonte en selle. Grâce à sa parfaite connaissance des lieux, celui que ses complices d'une nuit appellent Dauphin leur a fait franchir le dernier obstacle avant l'entrée au bourg. Ici, il est plus connu sous le nom de Noël Aran. Un jeune noctudiste marqué par les guerres. Noël Aran est né à La Cale le 1er août 1924 dans la maison où ses grands-parents avaient créé le café-restaurant Terminus de la Patache de Pont-l'Abbé, devenu aujourd'hui le café du port. Sa mère Estelle y est née également et y a travaillé avant d'épouser pendant la Première Guerre mondiale son cousin Jean-Marie, commissaire des douanes. Bien que celui-ci, mobilisé dans la marine, ait été grièvement blessé dans les combats des Dardanelles, le jeune ménage, investi après la guerre, dans la construction d'un nouvel hôtel au haut de la rue du Port et s'y installe quand Noël n'a encore que 14 mois. Mais en 1931, Jean-Marie décède prématurément des suites de ses blessures de guerre, laissant à Estelle la charge de l'hôtel et le statut de veuve de guerre, tandis que Noël devient pupille de la nation par jugement du 6 août 1932. Tout ceci n'est sans doute pas étranger au sens précoce des responsabilités que manifeste le jeune garçon. Ses études, à l'ortudie puis à Saint-Gabriel, le conduisent au brevet élémentaire quand la guerre, à nouveau, vient en interrompre le cours. Si l'événement ravive déjà chez les Aran des souvenirs pénibles, on peut imaginer ce qu'il en est du cataclysme qui se produit en mai 1940, quand l'armée française s'écroule sous le déferlement des forces ennemies. Alors qu'à l'ortudie, tous les hommes sont encore mobilisés, le premier détachement motocycliste allemand surgit le 20 juin 1940 dans un bourg bien vide, sans qu'aucune résistance ne lui soit opposée. Bientôt, des soldats descendent de camions et s'installent à l'hôtel Aran, comme dans tous les autres hôtels de la station balnéaire. Premiers engagements d'Estelle Aran et de son fils Noël dans la résistance. Alors qu'une large fraction de la population masculine, mari, fils ou grand frère, prisonnier de guerre, est encore absente. L'ortudie héberge près de 2000 réfugiés venus du nord de la France et de la région parisienne. C'est le temps des pénuries et des tickets d'alimentation, privation de pain pendant 6 mois, essence rationnée. On comprend qu'en dépit du fort ressentiment suscité par l'irruption arrogante des troupes d'occupation, la priorité soit d'abord à la survie au quotidien en attendant des jours meilleurs sous la direction du maréchal. Difficile de savoir qui aurait pu entendre, le 18 juin, ce général inconnu prétendant poursuivre la lutte depuis Londres. La réaction d'Estelle Aran n'en est plus qu'exceptionnelle. Sa réprobation de veuve de guerre se manifeste d'abord par des gestes hostiles. À l'approche de l'hiver, quand l'hôtel est habituellement fermé, elle refuse que ses hôtes, forcés, y installent des poêles en prétextant les risques d'incendie. Quant à la nourriture, Madame Aran, mère, et la fidèle employée Marie Cariou en font leur affaire en se bornant à réchauffer de grosses gamelles préparées à l'hôtel des bains. Selon Marie, une vraie nourriture de cochon, des patates trempant dans la flotte avec du chou. Mais l'engagement d'Estelle n'en reste pas là. On sait qu'en Bretagne, les premières actions organisées de résistance se sont articulées autour du renseignement dont le gouvernement anglais, confronté au projet hitlérien d'invasion Seelow, a fait une priorité. C'est l'origine des premiers réseaux organisés par l'intelligence service britannique tels que le réseau Johnny dans le sud Finistère, dont l'un des membres localement les plus actifs est le capitaine de la marine marchande Pierre Dréau de l'Esconil. En septembre 1941, Dréau assure lui-même, dans des conditions périlleuses, une liaison avec un sous-marin anglais au large des Glénans, à bord du Voltaire, une barque de 5,50 mètres qu'il a louée à Louis Autrette de Larvois. Mais 10 jours plus tôt, un premier drame s'est produit à Carhaix, où 2 opérateurs radio de Johnny ont été surpris en pleine séance d'émission. Le groupe local y est démantelé, les dirigeants du réseau contraints à l'exil, et les derniers rescapés seront définitivement éliminés après une nouvelle trahison en février 1942. Dréau, pratiquement le seul à en réchapper, se retrouve complètement isolé et sans contact avec Londres. Estelle Arend le connaît bien, mais c'est par une autre voie qu'elle devient la première femme de Loctudy à s'engager dans la résistance. Dès juillet 1941, les archives témoignent de son adhésion au réseau Adolphe Buckmaster comme agent P1 avec mission principale d'hébergement boîte aux lettres. Ce réseau, également issu du Special Operations Executive britannique, a ses racines dans le Loir-et-Cher où il a été fondé par le receveur des PTT, Pierre Cuglioli. On ignore comment celui-ci en est venu à créer une section à Quimper et comment Estelle Arend est entrée en contact avec lui. Mais on peut très bien imaginer qu'il ait été, avant le conflit, un client de l'hôtel. Il écrit à propos d'Estelle dans une enquête d'après-guerre. Anti-allemande de la première heure, s'est mise immédiatement et sans réserve au service de la résistance. Amenant le concours de son fils comme agent de liaison à bicyclette. Ce texte confirme aussi l'engagement précoce de Noël, introduit par sa mère au réseau Adolphe. Les archives le mentionnent comme agent P2, chef du groupe Loctudy, avec pour fonction passeur en Angleterre par bateau, renseignement, liaison. On ne connaît pas grand-chose de ses premières activités, par nature clandestine, mais on sait qu'il a été missionné en septembre 1941, après l'alerte, au réseau Johnny de Carhaix pour aller y récupérer un poste émetteur et le ramener sur le porte-bagages de son vélo dans une cache de Rosbordin. Il vient alors d'avoir 17 ans. Ceci illustre l'interaction qui peut régner alors entre organisations, un même agent pouvant appartenir à plusieurs réseaux, simultanément ou successivement. Ainsi, Estelle et son fils sont-ils inscrits au réseau Adolphe jusqu'au 31 mars 1943, mais en même temps, ils participent au réseau Castille Confrérie Notre-Dame du colonel Rémy, l'occasion leur en ayant été donnée, sans doute, par les contacts de plus en plus fréquents de Noël avec le brigadier Rico de Rosbordin. Noël figure, dès 1942, au fichier de la CND comme agent numéro 89-117, pseudonyme Dauphin, responsable de toute la zone Quimper-Carhaix. Le sauvetage des aviateurs américains Ryan et Blackmore. C'est alors qu'intervient l'événement évoqué en introduction de cet article. Dans l'après-midi du 6 mars 1943, un bombardier américain B-27, touché par la flak lors d'une mission sur l'Orient, vient s'écraser au nord de Plonéon-Lanverne. L'équipage a pu sauter en parachute, malheureusement dans une zone soumise à une forte densité d'occupation, et 7 aviateurs sont immédiatement capturés par les troupes allemandes. Plus tragiquement, le jeune copilote Gérald Simons est froidement abattu dès son arrivée au sol. Il ne reste finalement que 2 rescapés, le mitrailleur Glenn Blackermore et le commandant de bord John Ryan, qui parviennent à se dissimuler avec l'aide de la population locale. Reste à les éloigner aussi vite que possible des lieux de leur atterrissage. Noël Arend est contacté par un résistant de Pont-l'Abbé pour organiser l'exfiltration de Blackmore, caché depuis 2 jours dans un champ de colza de la ferme Crédou à l'Estiala en Plomeur. Il s'y rend aussitôt à vélo et doit ramper lui-même entre les plans de colza pour fournir à l'Américain un habit civil qui parvient à lui faire enfiler malgré la différence de taille. Le lendemain, il revient sur place avec son ami Georges Caillot, professeur d'anglais au lycée Papillon de Kerlérec, rue de la Palue à Loctudie, et Pierre Dréau qui apporte une bicyclette supplémentaire. La nuit venue, c'est un cortège bien insolite qui prend la route de Loctudie autour du géant Blackmore, engoncé dans un costume trop étroit et chevauchant une bicyclette trop petite pour lui. L'équipe met à profit le couvre-feu pendant lequel les Allemands eux-mêmes ne sortent pas. Peu après le passage délicat de Kerhervant, Estelle les accueille dans son hôtel avant qu'il ne fasse jour. Le périple du commandant Ryan est plus compliqué. Resté le dernier aux commandes de l'avion, il a sauté à l'écart des autres et a pu s'éloigner par lui-même, malgré une clavicule cassée à son atterrissage. Pendant une longue semaine, il se dissimule de ferme en ferme autour de Plonéo pour parvenir au terme d'une odyssée de près de 20 kilomètres au manoir de la Coudray en Tréméoc, dont le propriétaire Maurice de Pourtalès est en lien avec la CND. Appelé à nouveau à la rescousse, Noël accourt, cette fois plus confortablement, dans la voiture à gazogène du docteur Souben de Pont-l'Abbé, qui bénéficie d'un Oswest pour ses visites médicales. Ramené en moins d'une heure à l'hôtel de Loctudie, Ryan a la surprise d'y retrouver son équipier arrivé la veille. Ils vont rester 2 semaines dans ce havre accueillant jusqu'à ce qu'une alerte soudaine au matin du 22 mars n'oblige à les évacuer en toute urgence vers une autre maison amie de Pont-Aven. Avril-septembre 1943. Coopération avec Pierre Dréau au sein de la CND. Cet épisode a renforcé les liens de la famille Aran avec Pierre Dréau, qui adhère à son tour à la CND sous le numéro 89-411, pseudonyme Henri. Désormais, ses activités sont étroitement liées à celles de Dauphin pour des missions de toutes sortes, transmission radio, recrutement, reconnaissance de terrain. Pour Noël, elle se traduit surtout par un nombre incalculable de déplacements risqués, toujours à bicyclette, dans un rayon allant jusqu'à Carhaix et Pont-Aven, avec le plus souvent sur son porte-bagages un émetteur radio qu'il faut sans cesse déplacer pour échapper à la goniométrie. Il se rend aussi fréquemment à Rosporden pour assurer le lien avec le brigadier Rico ou à Rue de Val en Briec-sur-Blon, d'où émet Alain Bertou, autre opérateur de la CND. Selon les témoignages de Marie Cariou et de Paul Abgral, son voisin loctudiste, il est probable qu'il ait été lui-même initié au pianotage de l'émetteur pour suppléer à l'occasion du manque d'opérateurs. Quand le colonel Rémy, trop compromis en France, doit se réfugier en Angleterre, le chef de la région Bretagne-Corentin, Alex, est appelé à lui succéder à Paris. Jean Sioux, pseudo Faucon, le remplace sur place. Il réorganise le réseau en 7 sections sous le nouvel indicatif Cotre, en confirmant Dauphin comme responsable de la section Quimper-Carré. Mais le 5 novembre 1943, nouvelle catastrophe. À peine en fonction à Paris, Alex est pris dans un piège tendu par la Gestapo et tué sur place. La Gestapo ne traîne pas pour exploiter les archives tombées sous sa main et conduit aussitôt une série d'arrestations à Rennes, Concarneau, Pont-Aven, bientôt Saint-Guénolé. Le soir du 12 novembre, un message de Radio Londres enjoint « Tempête sur l'ouest, Henri et Dauphin sont priés de gagner immédiatement la campagne ». Noël se réfugie à Pont-l'Abbé dans la famille du négociant en vin, Bastien Volant, tandis que Dréau, s'estimant en sécurité, reste sur place à l'Esconil. Refuge dans la clandestinité, la mort en service commandé. Pendant encore 2 mois, tous deux s'efforcent de poursuivre leur mission dans la clandestinité en assurant d'abord les liaisons radio. avec l'aide de David, un autre rescapé du réseau rencontré à Quimper, ils reprennent les émissions à partir de Lesconil, puis à Pinmar, et enfin dans une sorte de grotte qui surplombe les Vircours de l'Audet pour transmettre des renseignements sur les convois maritimes qui remontent vers Brest. Un cargo de 20 000 tonnes qu'ils ont signalé au mouillage entre les Glénans et Concarneau est attaqué quelques heures plus tard par des chasseurs mosquitos. Le cargo explose, il était bourré de torpilles. Mais en janvier 1944, Noël manque de se faire prendre en garde de Quimper en compagnie de sa correspondante de Pont-Aven, Clémence Barbarin, Mimosa. Ils réussissent à semer les deux policières qui les pistent. Sur les conseils de Dréau, Noël décide de partir se cacher à Paris, dans l'anonymat de la capitale où il a de la famille. Commence alors une période particulièrement difficile. À peine arrivé à Paris, Noël est abordé par un agent de police nommé Rousseau, soi-disant ami d'Alex. Mais il s'en méfie et se dérobe. Il renonce aussi à prendre contact avec sa propre famille pour ne pas la mettre en danger. Se sentant toujours activement recherché, il doit se réfugier dans des logements précaires, changeant constamment de domicile sans donner l'adresse à personne. Il recherche un contact qui lui permettrait de passer en Angleterre, par l'Espagne ou par avion clandestin, mais sans résultat. De plus en plus affaibli, sans argent, sans carte d'alimentation et sans pouvoir recevoir d'aide, il finit par contracter un mauvais abcès dans la gorge sans oser sortir de son gîte malgré ses souffrances. Il parvient à écrire une lettre à Dréau avant de se décider à consulter un médecin début avril. Mais sans sulfamide ni antibiotiques pour juguler l'infection, il est déjà trop tard. Transporté d'urgence à l'hôpital Necker, il sombre dans un délire comateux où le médecin qui le soigne l'entend prononcer « Je suis à la barre du bateau, en route pour l'Angleterre, l'Angleterre ». Il meurt le 6 avril 1944 d'une septicémie foudroyante à 4 mois de ses 20 ans. L'Octudie fut libéré le 4 août 1944 dans une liesse générale qu'Estelle Aran ne pouvait évidemment pas partager. Ayant repris un temps l'exploitation de l'hôtel sur une base saisonnière, elle s'attache surtout à obtenir la reconnaissance officielle des mérites de son fils et le retour de sa dépouille à l'Octudie. Démarches qui mettront de nombreuses années à aboutir malgré la médaille de la résistance qui lui est attribuée le 31 mars 1947. Après 1965, elle vit retirée avec Marie Cariou dans les anciens garages de l'hôtel. Elle est décédée le 3 juillet 1982 à l'Hôtel Dieu de Pont-l'Abbé à l'âge de 88 ans, sans s'être jamais remise de la culpabilité qu'elle s'attribuait pour la mort de son fils, répétant souvent « Un jour, on saura ce que Noël a fait ». 80 ans après le début de son engagement, il est grand temps, en effet, de faire mieux connaître cette belle histoire. Source. Merci à tous les témoins qui nous ont confié leurs souvenirs personnels et particulièrement à Paul Abgral, proche voisin et ami des Aran, au regretté Gustave Jourdrin, aux membres de la famille Pierre-Yves et Isabelle Aran et Stéphane Pruchon. La plupart des faits relatés viennent de documents des archives départementales de Quimper, du service historique de la Défense à Vincennes et des archives américaines d'ARPA, dossiers Dréau et Barbarin. Pour en savoir plus à propos du réseau Johnny, on peut se reporter au livre d'Emmanuel Couano, des agents ordinaires, le réseau Johnny, 1940-1943, édition Locus Solus, 2017. Et à propos de Kemmer et de l'épisode Ryan, aux articles d'Yves Blanchard dans la revue Cap Cabral, numéro 35, 40 et 41.